Bonjour à toutes et à tous, Fabien du cinéma Le Bourguet de Fort-Calquier. Je vous parle de la semaine du 20 au 26 mars. C'est donc la semaine du printemps et l'on s'en réjouit. C'est aussi la semaine du printemps du cinéma à laquelle nous prenons part cette année. Donc du 24 au 26 mars, toutes les séances sont à 5 euros. Et vous aurez de quoi faire puisque 8 films sont à l'affiche, pas moins. 4 films de l'actualité du cinéma et puis 4 films qui prennent part à ce week-end très spécial les 23 et 24 mars, samedi dimanche. Un week-end en présence de Luc Moulet et d'Antonietta Pizzorno pour vous montrer 3 longs métrages et 5 courts métrages de Luc Moulet, 86 ans. Et l'on se réjouit de ce retour au bercail pour un cinéaste qui a beaucoup tourné dans les Alpes d'Haute-Provence, on y revient tout à l'heure. On commence avec The Sweet East, un premier long métrage américain, et américain c'est peu dire, et pour le meilleur du cinéma indépendant américain, Sean Price Williams, c'est son premier long, mais il était depuis une quinzaine d'années directeur de la photographie, et vraiment pour le meilleur du cinéma américain, puisqu'il a vraiment, il a travaillé notamment avec les frères Safdie sur Mad Love in New York, sur Good Time également avec Robert Pattinson, il a travaillé avec Alex Ross Perry, aussi, qui produit son premier long métrage, donc ici avec The Sweet East, qui est largement porté par une jeune actrice formidable qui devait avoir 16 ou 17 ans, l'âge de son personnage au moment du film. Elle s'appelle Talia Ryder et on retrouve à ses côtés une multitude d'acteurs et d'actrices de la jeune génération. On suit Liliane, une lycéenne qui prend la poudre d'escampette lors d'un voyage scolaire, on en a tous et toutes rêvé peut-être, et qui, de rencontre en rencontre, va se laisser porter dans un monde quasi souterrain. C'est celui d'Alice au Pays des Merveilles, en quelque sorte, mais les merveilles ici sont plutôt amères, puisqu'on est dans l'Amérique post-Trump, à moins qu'on soit dans l'Amérique pré-Trump, on ne sait plus trop. Et donc, le film comporte vraiment une dimension politique très forte, très vive, mais le fait avec infiniment d'humour, d'humour noir, d'absurde, et c'est ce qui nous porte d'un bout à l'autre du film. Ces visages qu'on ne connaît pas, ces corps, ces ambiances, ces changements d'ambiance d'une rencontre à l'autre. Le film est beau, il est drôle, il est formidablement interprété. Il s'appelle The Sweet East et il est programmé pour 5 séances en version originale cette semaine.
There's something very fine in you. Something delicate.
So, my mystery friend, what's the story?
I ran away from a school trip. Just kind of doing my own thing.
We're filmmakers.
We want you.
Yeah, we did. Okay.
Can we just walk?
Yes.
Of course.
Oh my God.
Yes.
This is not a safe place for you to be.
Wait.
Do you like electronic music?
So like, I'm gonna just like strike that.
It's crazy is what it is.
I'm just in like a shitty situation.
I'm looking for this girl.
And I don't really know what I'm gonna do.
I'm getting out of here, you coming?
Shit's only gonna keep getting heavier. That shit you saw today, that's just the beginning.
Your country
is a crazy place.
Did you know that, yeah?
I don't have your number.
Oh, I don't have a cell phone.
That's amazing.
That's awesome. I love that.
La salle des profs, c'est ce qu'on pourrait appeler un thriller, un film à haute tension qui se passe en huis clos dans un collège en Allemagne. Une professeure de mathématiques interprétée par Léonie Benesch, qui était il y a 15 ans l'une des jeunes interprètes du Ruban Blanc. Elle jouait la nourrice. Vous vous souvenez qu'il y avait une relation amoureuse avec l'instituteur qui était interprété par Christian Friedel. Et ce qui est drôle, c'est qu'on les a peu vus l'une comme l'autre depuis 15 ans et on les retrouve quasiment le même mois puisque Christian Friedel joue dans la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, il interprète le commandant d'Auschwitz. Et on retrouve Leni Benesch 15 ans après, elle avait 18 ans je crois au moment du ruban blanc, elle en a 32 aujourd'hui. On la retrouve dans ce rôle de Carla Novak, cette professeure donc de collège qui va se retrouver confrontée à une injustice parce qu'il y a des vols qui ont lieu dans son collège. Et on va voir là, à travers vraiment un film construit comme un crescendo dramatique et à haute tension, on va voir combien un collège peut cristalliser tous les enjeux et toutes les tensions d'une société. Et le film devient une sorte de extrêmement synthétique et extrêmement une métaphore aussi extrêmement pertinente sur l'état d'une société. Alors là, il s'agit de l'Allemagne, mais on sait bien ô combien, depuis 2-3 ans tout particulièrement, et les drames et les attentats, évidemment, que certains établissements et les meurtres, pour le dire aussi, depuis notamment l'assassinat de Samuel Paty, combien un collège, un établissement scolaire peut être un lieu de tension extrême et toute la difficulté qu'il y a à régler en interne ou pas, d'ailleurs, ces problématiques. Le film, vous le verrez, est extrêmement bien mené, interprété, bien écrit aussi. Et on va voir comment une situation en entraînant une autre, on se retrouve vraiment dans une sorte d'impasse terrible. Et le film restitue ça au plus juste et de manière extrêmement forte. Ce film donc s'appelle La salle des profs. C'est le 4e long métrage, je crois, d'un cinéaste allemand qui est quasiment inconnu en France. C'est le 2e long métrage qui sort en France. Il s'appelle Ilker Satak. Il a reçu lors des prix qui sont appelés César allemands, l'an passé, je crois, 5 prix, dont celui du meilleur film, meilleure réalisation et meilleure interprétation féminine pour Leni Benesch. Ce n'était que justice, ce film-là est programmé à Forcalquier pour 5 séances cette semaine.
Hat aber nichts mit Magie zu tun, sondern Mathematik. Frau Kuhn, ich habe ein riesiges Problem.
Ey, jetzt lass doch mal los!
Haben Sie einen Beweis? Wir können mit dir nicht darüber reden, Oskar. Hin oder her, aber der Junge ist doch total verwirrt. Sehen Sie das nicht?
Wir sind diejenigen, die verwirrt sind.
Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist.
Ich kann schon verstehen, dass das alles ein bisschen viel für Sie ist. Vielleicht sind Sie auch überfordert.
Hey! Bespitzelung. Denunziation. Verleumdung. Rufmord.
On ne cesse de vous dire combien le cinéma dit documentaire est le cinéma de l'avenir, le cinéma qui offre des perspectives à l'ensemble du cinéma, là où l'on voit bien tout le caractère extrêmement vicié du système de production actuel et qui dure depuis des décennies. On sait que le cinéma français, mais pas que, est un lieu de domination, de pouvoir, et un lieu d'argent, évidemment, qui pervertit toutes les relations. C'est pas vrai de tous les films et de tous les cinéastes, mais quand même, il y a un système là derrière qui va être bien difficile de modifier. Et puis dans le cinéma documentaire, on est un peu ailleurs, on est toujours dans une sorte de décalage par rapport à cela. Non, je veux pas idéaliser le système, et il y en a pas d'ailleurs du cinéma documentaire, mais l'argent est moins présent. Il y a comme une horizontalité, en tout cas, qui existe dans les rapports et dans les enjeux aussi. Et ça fait un bien fou, parce que du coup aussi, le cinéma est beaucoup moins sclérosé, formaté, beaucoup plus créatif. Et cela se ressent, notamment ce début d'année où tant de films documentaires, ou en tout cas affiliés au genre, qui n'en est pas un, sont dans les salles. Sur le précédent programme du Bourguet, il y avait 9 films documentaires en 4 semaines, c'est beaucoup. Et sur celui-ci, en 3 semaines, je crois qu'il y en a 8 ou 9 aussi, donc il y en a entre 2 et 3 par semaine. On y reviendra avec Luc Moulet, mais vous avez pu voir la semaine dernière Bye Bye Tiberiade ou Classified People, La semaine prochaine, il y aura les films de Stache, les films d'Anastasia Lapsui et Marcou les Mouscalios. Il y aura aussi Une famille de Christine Angot qu'on ne saurait trop vous recommander. Et ce qui est assez beau avec le film dont on vous parle tout de suite, qui s'appelle La mère de tous les mensonges, qui est un excellent exemple de la créativité du cinéma documentaire actuel et de sa réception aussi toujours plus grande, toujours plus élargie, c'est que on vous a montré Pour ton mariage de Uri Milstein, on vous montrera Une famille de Christine Angot, et là encore avec La mère de tous les mensonges, c'est des enjeux à la fois très privés, une famille, c'était le cas évidemment pour Uri Milstein et pour Christine Angot, mais à travers l'auscultation, l'analyse et l'anatomie, pour reprendre ce terme, d'une famille, eh bien, c'est là encore toute une société, toute une culture qui est remise en question, toute une situation politique et historique, en l'occurrence là, celle du Maroc, puisque ce film, qui est un premier long métrage d'une jeune cinéaste marocaine qui s'appelle Asmaël Moudir, qui a 34 ans cette année, le film était à Cannes l'an passé, là on avait 33, et ce film a eu une multitude de prix depuis sa présentation à Cannes. Alors déjà à Cannes, il était dans la sélection Un certain regard, il a obtenu le prix de la mise en scène, ce qui est quand même extrêmement symboliquement très fort qu'un film documentaire reçoive le prix de la mise en scène. Il a eu également l'œil d'or, c'est-à-dire le prix du meilleur film documentaire toutes sections confondues, et depuis il a accumulé les prix, depuis le prix des étudiants au Cinémède à Montpellier, jusqu'à l'étoile d'or, c'est-à-dire le grand prix du meilleur film à Marrakech, qui est donc le pays de la jeune réalisatrice. Voilà, un film qui s'inspire, je crois, de l'image manquante de Riti Pan, qui est quand même un bel antécédent dans son dispositif, parce que ce que l'on voit aussi dans la extrême inventivité du cinéma documentaire actuel, c'est que des dispositifs sont mis en place, on l'a vu avec Les filles d'Olpha, on le retrouve ici, qui est proche en l'occurrence de l'image manquante, à travers des figurines, un décor, des figurines, et qu'à partir de là, c'est toute l'histoire d'une famille, elle convie tous les membres de sa famille pour revenir sur une situation et évoquer notamment, pour ce qui est de l'histoire du Maroc, les émeutes du Pin de 1981, la répression qui s'en est suivie, voilà, et tous les mensonges et les non-dits et les dénis qui, notamment dans la famille de la réalisatrice, ont eu cours depuis lors. C'est un film qui va assurément vous intéresser beaucoup. Et ce film-là est programmé pour 5 séances au Bourguet cette semaine.
ملي خرجتو من ديارهم وجبتو معايا لهنا كالغرض ديالي نعاودو نبنيو الذاكرة من جديد
تعوق الكام او تجي ضحك انت
تعالى يا ونعيد لي تعالى
حاول الكلام اللي بقى مخنوق في ديارنا هادي سنين الحيوط عندهم الودنين
حيت انا راه باغي نعرف شي حوايج
المقابر مشتوها
والحقيقة تمستوها علاش كنقولو راه كنقولها الحقيقة وأنا ما بغيتش نبقى نفكر هاد الشيء هذا دمروني
أش شفتي؟
حاجة ما شفتها
كان كيحسب لي بلي تبدا الحيوط غيبدلهم ما كنحسو بلي السكات كيدور حتى النهار اللي كنبوحو
ياك عرفتي علاش عرفتي علاش حبستكم
وتصاورت والضو الذاكرة باقا حية وتقولوا هاد لجداتي انا هي المخرجة
On enchaîne avec un autre film documentaire sur lequel on ne s'attarde pas plus que ça puisqu'on en a parlé il y a 3 ou 4 semaines. Il s'agit de Vivre avec les loups de Jean-Michel Bertrand. C'est le plus beau succès depuis le début de l'année au cinéma Le Bourguet. Le réalisateur était là, la salle était pleine et les séances qui ont suivi, les séances étaient également pleines ou proches de l'être. Donc on s'est dit que vous étiez nombreuses et nombreux à souhaiter le revoir, à le découvrir si vous l'avez manqué. L'occasion vous en est donnée par 2 fois cette semaine. Vivre avec les loups vous est présenté ce vendredi 22 mars à 21h et le dimanche 24 mars à 14h. Le réalisateur ne sera pas là, mais vous serez sans doute heureux de le voir ou de le revoir. Vivre avec les loups, c'est le film de Jean-Michel Bertrand. Vous savez que c'est le troisième volet d'un triptyque entamé avec La Vallée des loups, suivi avec Marche avec les loups. Une histoire se clôt, au moins provisoirement, autour du loup. Vous verrez que le film est très beau parce qu'il n'est pas simpliste. Il affronte la complexité, il s'avère constructif dans le dialogue qu'il instaure avec à la fois les personnes qu'il rencontre et avec les spectateurs, et notamment ceux peut-être qui étaient en colère à la suite des deux premiers films. Il s'adresse à toutes et à tous, pourvu qu'on garde une lueur de bienveillance dans son regard et qu'on cherche des solutions et à se dire que c'est en parlant qu'on arrive à construire aussi l'avenir, et notamment dans cette situation du loup qui cristallise tellement de choses de l'histoire humaine des derniers siècles et évidemment sur les dernières décennies. C'est un enjeu fort, c'est un enjeu politique dont chacun peut s'emparer là où il est. Vivre avec les loups de Jean-Michel Bertrand.
Ça va être le dernier automne à ma cabane. Il s'en est passé des choses pendant 4 ans. Et pourtant, je sens bien que je suis pas au bout de mes surprises. Il y a aujourd'hui 6 meutes sur ce massif. Et là, c'est la dernière meute installée. C'est celle-là que je suis.
Belle trace.
Ça fait 30 ans que les loups sont revenus. Et pourtant, très peu de monde se prépare à leur retour.
On en vient à cet événement dont on rêvait depuis très longtemps, accueillir Luc Moulet. Luc Moulet, c'est l'un des derniers cinéastes de la Nouvelle Vague, même s'il était un petit peu plus jeune que Jean-Luc Godard, que Claude Chabrol, François Truffaut, Éric Rohmer ou Jacques Rivette. Il était présent à l'époque des Cahiers jaunes, début des années 60, fin des années 50, début 60. Il est né en 1937, rendez-vous compte, il aura 87 ans cette année. Et il sera avec nous. Il a mobilisé toute son énergie et son enthousiasme et son humour sans doute pour une mini tournée dans le sud. Il sera à Port-de-Bouc, à Marseille aussi, et il passe tout le week-end avec nous, avec Antonietta Pizzorno qui est sa compagne depuis 50 ans, et ensemble ils font les films de Luc Moulet. Et ça sera précieux de les avoir tous les deux, parce que les films qu'on vous montre là ce week-end sont, ils sont présents à l'image dans bien des cas tous les deux, et c'est vraiment une histoire de couple aussi. C'est le cas notamment de Genèse d'un repas. Alors le week-end s'organise de cette façon. Il y aura 2 séances spéciales avec eux le samedi 23 mars à 15h et à 18h30, avec 2 films des années 70, avec une teneur politique assez forte, Genèse d'un repas et Anatomie d'un rapport. Et puis le dimanche, on sera plus sur l'aspect territoire, géographique, voire géologique, et notamment les films qu'ils ont tournés dans les Alpes d'Haute-Provence, parce que ce sont des amoureux des Alpes d'Haute-Provence, où ils reviennent. Luc Moulet est familier des Alpes d'Haute-Provence depuis son enfance. Il y revient à travers ses films, à travers ses courts-métrages notamment, et on vous en montrera 5 le dimanche 24 mars à 10h30. Et la dernière séance de ce week-end spécial, ce sera le dimanche à 16h, avec le film emblématique de sa filmographie pour son quant à son rapport avec les Alpes, c'est La Terre de la Folie. Je vous dis un mot très rapide de chacune de ces séances. Genèse d'un repas, qui date de 1978, bien comme le titre l'indique, à partir de 3 aliments, du thon, des œufs, des bananes, Luc Moulet va retracer toute la chaîne de production, de distribution. Et cette analyse qu'il fait à partir de ces 3 aliments s'avère d'une pertinence aujourd'hui encore extraordinaire, puisqu'il va démonter toute la dimension problématique du capitalisme tel qu'il se pratique depuis des décennies. Et à partir de là, il va aborder une multitude de ce problème extraordinaire, depuis la publicité mensongère et le néocolonialisme, le travail des enfants dans ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, les injonctions occidentales à la surconsommation, le rôle idéologique de la religion et du cinéma dans la reproduction de rapports de domination et le gaspillage à grande échelle des ressources, l'usage intensif des insecticides. Enfin, vous voyez, il y a une multitude de choses à aborder. Et évidemment, toujours le rapport de domination que le capitalisme produit à outrance, quels que soient les aspects qui sont les siens. Genèse d'un repas, ça va être passionnant de voir ou de revoir ce film aujourd'hui, alors que le film a près de 50 ans, et de le faire avec Luc Moulet et Antonietta Pizzorno.
Presque toutes les ventes sont faites à Pêcheurs de France. L'infrastructure bretonne reste solide au Sénégal. De même, en Équateur, l'United Fruit avait tout organisé, même cette ville banane, Tengel, paradis concentrationnaire. Mais, victime d'une maladie, les bananes locales, les grosses Mitchell en forme de croissant, coûtaient plus cher à soigner que les Cavendish actuels à forme phallique. Et du jour au lendemain, l'United Fruit abandonna les grosses Mitchell, la production, Tengel, et acheta les Cavendish des petits planteurs. L'infrastructure commerciale ayant été bien établie, les grandes puissances pouvaient se permettre d'accorder une soi-disant indépendance et d'abandonner la propriété des terres. Fini les obligations sociales qu'avaient eues la France et l'United Fruit, équipement collectif, salaire minima, charge de santé. Les bénéfices grandissent. Embauchés par les trusts exportateurs, les dockers n'ont pas de congés payés, mais gardent quelques avantages en cas de maladie du travail, la sécurité sociale complète étant réservée aux fonctionnaires.
Los gastos se los paga cuando uno va ahí y le da un descanso, entonces les paga. Pero ya por allá no lo manda. Por ejemplo, para irme yo a los baños, tenía que irme yo con mi propio plata.
Mais rien pour les chauffeurs, ni pour les paysans employés par les planteurs pauvres.
En esa parte, pues, en esa parte sí estamos bastante alejados y aislados a eso. No, la referencia, ¿no? Entendía, por ejemplo, de fiestas patrias, de así pues de aguinaldo, como se dice, que le dan a uno. Claro que sí, haciendo reclamos, ¿no? Entonces sí dan algo, pero en el caso no es para el trabajo que uno se hace, mejor dicho, ¿no? Para el patrón, ¿no? Porque uno se sacrifica por el patrón, ¿no? Porque tiene que hacerlo así, porque de otra manera entonces no podría trabajar, porque uno le cae mal al patrón, por tal y tal cosa, entonces enseguida lo botan.
Les petits planteurs ayant moins de charges, ça permet au trust de les payer moins.
Les deux, même Luc et Antonietta, sont à l'origine d'un film qui précède Genèse d'un repas de quelques années. Il s'appelle Anatomie d'un rapport. Alors c'est évidemment drôle de vous montrer le film une semaine après avoir repris Anatomie d'une chute, puisque dans les deux cas, il s'agit bien d'un couple et de disséquer les relations d'un couple. Alors là, le rapport, c'est aussi le rapport sexuel, et parler de sexe en 1975, peu après la libération sexuelle et mai 68, s'avère évidemment d'une grande force. Mais ce qui est beau, c'est que Luc Moulet, notamment dans ses documentaires, mais bien sûr aussi dans ses fictions, et là on est vraiment entre deux, c'est qu'il le fait toujours avec un humour extraordinaire, et on le retrouve ici, à l'écran, se mettant littéralement à nu, aux côtés de Marie-Christine Kesterberg et Antonietta Pizzorno, toute proche sur le plateau, pour analyser les rapports de couple et l'histoire de ce couple qui est celui que Luc Moulet forme avec Antonietta Pizzorno. Donc on prendra vraiment le temps de revoir ce film, où il est évidemment question de féminisme et des combats féministes d'une époque qui sont ô combien ceux de notre époque aussi, quoique d'une manière un peu différente. On aura vraiment le temps de revenir à la fois sur Genèse d'un repas, sur Anatomie d'un rapport à 15h et à 18h30 avec Luc et Antonietta. Ça, c'est le programme du samedi. Et pour le dimanche, 5 courts-métrages vous seront montrés à 10h30. 5 courts absolument formidables. Terre Noire, qui date de 1961, qui est tourné en bonne partie au-dessus de Digne, dans un village paumé qui s'appelle Mario. Et c'est intéressant de se dire que le cinéma de Luc Moulet commence toujours au moment où la route goudronnée s'arrête et où commence la piste. Et on embarque avec Luc Moulet et Antonietta sur ces pistes pour découvrir des coins paumés, notamment des Alpes de Haute-Provence. Cette dimension territoriale et géographique, on la retrouve aussi dans La Cabale des Oursins, qui est un court-métrage qu'on vous montrera. On vous montrera également Bar, où Luc Moulet fait l'inventaire un peu à la Pérec ou à la Prévert de toutes les façons qu'ont les Parisiens et les Parisiennes de franchir de manière frauduleuse, comme on dit, les bars et les tourniquets des couloirs de métro. Il y aura Le Litre de lait, qui était un joli conte tourné là aussi dans les Alpes d'Haute-Provence. Et on terminera avec Foix, qui est un film extrêmement drôle sur la ville de Foix en Ariège. Et à 16h, ultime séance avec Luc et Antonietta, avec La Terre de la Folie, où Luc Moulet, avec à la fois pertinence, impertinence et évidemment beaucoup d'humour, décrit un pentagone de la folie entre le sud-est de la Drôme, les Alpes de Haute-Provence, en tout cas le nord des Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, où il liste une multitude de crimes, d'affaires criminelles, passionnelles, pour certaines d'entre elles, des meurtres qui ont été commis dans les dernières décennies, avec certaines évidemment très emblématiques, à l'URSS avec l'affaire Dominici, la mode du Caire, voilà, tant d'autres. Et il revient sur chacune de ces affaires, et en se prenant lui aussi comme sujet, comme étant sujet à la folie, et il le fait avec le décalage qui lui est propre. Et pour une scène finale d'anthologie aussi avec Luc et Antonietta, ça sera une très belle façon de terminer ce week-end spécial avec Luc Moulet, avec Antonietta Pizzorno.
Je ne suis pas quelqu'un de très normal. Je vis toujours un peu à côté de la réalité. On pourrait déterminer une sorte de pentagone de la folie circonscrit entre Montclar, Rosens, Soult, Castellane, Quinçon, le haut plateau, avec son vent continu, pousse à la neurasthénie. Il peut même rendre fou, surtout à la fin de l'été. À Cruis, le mari tue sa femme et se suicide. À Saint-Étienne, le mari tue sa femme et se suicide. Les femmes sont souvent les premières victimes.
Le père de famille a tous les droits. Tous les droits. Et donc, il a le droit aussi de frapper, de battre, de commander et de tuer.
Il y a une sorte de relais dans la folie. On passe des gens du pays un peu attardés aux néo-ruraux, parisiens ou étrangers, qui créent ou attisent le drame.
Entre un morceau de saucisson, de jambon, morceau de pain.
Étranglé, et il a pris la corde, la façon dont il a continué à l'étrangler.
Et en 1999,
il a tué sa mère d'un coup de carabine,
tue d'un coup de fusil la femme de son frère.
Et là, on s'est rendu compte que les membres avaient été sciés.
J'ai eu mon compte, j'en ai tué trois. Je suis content. J'ai pas tué trois personnes. J'en ai même tué aucune pour le moment. Et j'en suis fier.
Voilà, c'était la semaine du 20 au 26 mars, celle du printemps du cinéma. Du 24 au 26 mars, toutes les séances sont à 5€. Et je n'ai pas précisé encore que pour ce week-end Luc Moulet, il vous sera possible d'acheter une carte pour les 4 séances à 20€. Donc vous pourrez aussi bénéficier dès le samedi de séances à 5€ concernant le week-end Luc Moulet. Et il suffit de passer au cinéma. Et évidemment, pour ce week-end spécial, on vous recommande, comme pour tous les films en général, mais particulièrement pour les séances spéciales, de passer quelques jours plus tôt, acheter vos places à l'avance. C'est possible d'ores et déjà pour Luc Moulet. Ça l'est aussi pour la soirée cinéaste du Grand Nord du 28 mars. On vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.